Actu SF, les podcasts.
Capitaine, magicienne et sorcier, victime et bourreau, également destination. Voilà, et aussi, il illustre pour du jeu de rôle. Donc, on va parler de son approche d'illustrateur et de rôliste, peut-être aussi. Je suis l'ordre de ma fiche, pour être franc. Julien Pirou aussi. Bonjour, Julien, qui est tombé dans la marmite assez petit, qui a pas mal travaillé pour l'éditeur de jeux vidéo Ubisoft, notamment en tant que scénariste et designer sur la série Might and Magic. On lui doit aussi du travail pour No Life et récemment, précisons qu'il est tout à fait à sa place dans cette table, puisque bon, c'est un rôliste, hein, je pense qu'on peut l'avouer, puisqu'il a aussi écrit donc la grande aventure du jeu de rôle chez Inis Edition. Ouvrage bien évidemment que vous pourrez trouver sur les Imaginales et qu'on vous conseille évidemment. On va pas mal s'appuyer dessus justement pour parler d'histoire. Fabien Fernandez, bonjour, il est également avec nous.
Bonjour.
On va pas mal se croiser dans cette édition des Imaginales. Auteur illustrateur, hein, plusieurs publications à son actif, dont des jeux de rôle, hein, par exemple Project Pelican, Listart, et des romans. Hein, bon, alors les romans, on en parlera surtout demain pour le coup, mais on peut citer L'Enfant Mitrailleuse, on peut citer Détroit, on peut citer On Construit Bien les Monuments, et puis dans une perspective peut-être un peu plus légère, un peu plus exotique, Ayati, hein, aussi, et donc également rôliste. Et enfin, last but not least, Christophe Hiebert.
Bonjour.
Bonjour. Qui aussi est versé dans l'univers du jeu de rôle, puisque qui travaille sur du jeu de rôle, notamment apparemment, si j'ai bien retenu l'information, qui travaille sur une adaptation possible de son cycle de ses chroniques de Mervergorod, qui sont donc ces écrits à dimension uchronique, alors qui piquent un petit peu derrière les gencives. On va en parler. C'est pas très reluisant, la société de Mervergorod, mais voilà, un monde assez ouvert qui trouverait bien sa place dans un JDR. On va en parler. Alors la question, elle est basique, mais c'est un peu la question obligée. Le jeu de rôle et la pop culture, comment vous êtes tombé dedans? Quel a été votre oh boy dans cette vie de rôliste, dans cette révélation? À chacun. Chacun son tour. Allez.
Alors, le jeu de rôle, moi je suis pas rôliste, pourtant, ouais. Le jeu de rôle est pourtant le jeu de rôle est très important dans ma carrière. Moi je faisais quand j'étais gamin, je faisais des illustrations plutôt historiques, fantastiques, un peu de tout. Petit à petit, les mondes de fantasy sont imposés. Et je connaissais le jeu de rôle, je savais que ça existait, je connaissais l'œil noir. Mais voilà, mes copains ne faisaient pas du tout de jeu de rôle, ils n'étaient pas du tout dans la fantasy. C'est quand j'ai été au lycée, il y avait une petite boutique à côté du lycée qui s'appelait Temps Libre. Je faisais aussi pas mal de figurines à l'époque, mais plutôt napoléoniennes ou des maquettes. Et là, il y avait un tas de figurines de fantasy. J'avais jamais vu ça. C'était magnifique. Et des manuels avec des couvertures. Je ne sais pas trop ce que c'était. C'était du jeu de rôle, mais je ne sais pas comment on y jouait, je ne sais pas comment ça fonctionnait. Et j'étais très attiré par tout cet univers. Et je me suis dit, avec mes dessins, c'était là que je pouvais m'éclater le plus pour mon boulot. Donc j'ai commencé à faire plein d'illustrations de fantasy. Et ensuite, à la fac, j'ai rencontré Cyril Dogen, qui était à l'époque le cartographe attitré de Casus Belli. Et qui commençait à faire et qui commençait à travailler pour la boîte d'édition Multisim et son jeu Néphilim. Et ils avaient besoin d'illustrateurs. Et c'est lui qui m'a présenté à la boîte Multisim. Donc j'ai commencé à faire des illustrations intérieures pour Néphilim, pour le deuxième supplément. Puis j'ai continué sur Néphilim et ensuite est venu Guild. Ensuite est venu Dark Earth, Agon. Voilà, donc en fait, le jeu de rôle m'a permis de faire mon travail d'illustrateur, il m'a permis d'apprendre mon boulot. Et après, j'ai continué sur Mnemos, et du coup, voilà, j'aboutis aux Imaginales. Et donc, pour moi, le jeu de rôle, c'est. En dessinant, je faisais déjà du jeu de rôle, quoi. C'est-à-dire que je vivais les aventures que je dessinais, donc il était là, quoi, mon plaisir de rôliste, finalement.
Est-ce qu'il y a eu notamment des écrans de maître que tu aurais pu
J'ai
être...
fait l'écran de Guild et Agon, ouais.
Ouais, ok.
Ah, c'est mon tour. Alors moi, je suis tombé dedans très très petit. À 9 ans, un oncle m'a offert une grosse boîte en plastique qui était éditée par Gallimard à l'époque, et c'était L'Œil Noir. Et puis, j'ai jamais lâché. Aussi simplement que ça, je joue encore assez régulièrement. Et puis, eh bien, ça fait un peu le parallèle avec Julien, parce que moi, toute ma carrière, le jeu de rôle m'a apporté, m'a ouvert des portes en tant qu'illustrateur, en tant qu'auteur, et ainsi de suite, m'a appris beaucoup de choses, ne serait-ce que relationnellement déjà, c'était pas mal quand on est ado et qu'on est un peu boutonneux et qu'on est un peu timide, ça permet d'avoir une vie sociale, le jeu de rôle. Petit comité, mais et puis voilà, bah du coup aujourd'hui, bah, je suis créateur de jeux de rôle, voilà, enfin pour faire le début et la fin, mais on en reparlera peut-être après.
Moi aussi, je suis de la génération Œil Noir. J'ai commencé par les livres dont vous êtes le héros, évidemment, au collège, en 6e. Puis j'ai découvert l'Œil Noir, la fameuse grosse boîte de Gallimard. J'ai joué, je pense, pendant 10 ou 12 ans. Je pense que j'ai arrêté en 95-96, faute de temps. Et puis là, ma vie est passée un peu à d'autres centres d'intérêt, d'autres trucs. Et j'y suis revenu, en fait, de façon. Enfin, inattendu pour moi plus récemment, parce que je travaille maintenant comme auteur pour Batross Games, pour qui j'ai écrit la trilogie de la crasse et quelques autres scénarios et campagnes. Et donc maintenant, je suis de façon secondaire dans mon travail, mais quand même importante pour moi, auteur de jeux de rôle. Et je pense aussi, surtout, que la pratique du jeu de rôle m'a beaucoup influencé dans ma manière d'écrire et de raconter des histoires, et particulièrement pour le cycle de Mervagorod.
Et bah, dans mon cas, le jeu de rôle, en fait, j'y suis venu peut-être un peu sur le tard, en tout cas durant les années de lycée, parce que j'ai d'abord orbité en fait autour du jeu de rôle. Je joue aux jeux vidéo, j'ai fait les livres dont vous êtes le héros, j'ai fait des figurines avec Warhammer. Mais le jeu de rôle, voilà, dans la petite ville de province, personne n'en faisait en fait. Donc du coup, j'ai pas vraiment eu cette initiation vers le jeu de rôle. J'avais lu un supplément de L'Œil Noir qui était édité dans une charte graphique et un format très proche des livres dont vous êtes le héros. Donc je pensais que c'était un livre dont vous êtes le héros, et puis en fait non, donc je comprenais pas du tout ce que j'étais en train de lire. Donc le déclic s'est fait plus tard, quand j'étais au lycée, où j'ai découvert une boutique. À l'époque j'étais à Tours, voilà, une boutique qui s'appelle La Règle du Jeu. Je pense qu'on peut saluer les boutiques qui ont fait beaucoup d'ailleurs pour faire découvrir ces jeux et qui ont longtemps été le point un petit peu où de rencontres aussi. Et là, je tombe sur une couverture qui m'a frappé. On y voyait une espèce d'énorme troll à cornes avec un flingue en train de se battre contre des ptérodactyles. Et il y avait un nain avec des lunettes d'aviateur qui pendait à une chaîne. J'ai vu ça, j'ai fait, mais je sais pas ce que c'est, mais il me le faut. C'était Shadowrun, 3e édition. Et puis voilà, et je n'ai jamais arrêté depuis 20 ans.
J'ai transpercé la feuille de personnage du combattant de l'autoroute tellement, tellement je l'ai faite et refaite. Justement, la pop culture, parlons-en. Pour vous, pourquoi, je pense qu'il est indéniable qu'on puisse dire que le jeu de rôle a marqué et marque encore aujourd'hui, on parlera de chasse aux sorcières un peu plus tard, mais du coup, pourquoi selon vous, le jeu de rôle est aussi marquant dans la pop culture?
Je me lance.
Ah, vas-y, vas-y.
Ben, je suis assez d'accord avec ce que dit Christian Lehmann sur le sujet. Pour le situer vite fait, donc lui, il est médecin, écrivain, et c'était aussi un ancien rôliste qui a fondé le magazine Chronique d'Outre-Monde. Et lui trouve que l'écriture sérielle, qui est très, très développée aujourd'hui, ben, dans les séries télé, mais aussi dans les fictions et dans les romans, vient beaucoup de l'écriture du jeu de rôle. C'est-à-dire que ce mode d'écriture qui place le personnage et les interactions au cœur de l'action. Et qui, ben, développe très au long cours les histoires, C'est vraiment très très réaliste comme approche de la situation, et donc il a déjà influencé au moins sur le plan de la structure et de la manière de concevoir simplement les histoires.
Je pense qu'on peut aussi tout simplement ajouter, bon alors, faut se recadrer aussi, bon, je ne sais pas si c'est d'ailleurs utile de parler de la chasse aux sorcières, parce que c'est pas... Surtout à l'époque où maintenant le jeu de rôle a le vent en poupe parce que les gens se sont de nouveau rendu compte que c'était un outil génial de narration et peut-être le meilleur outil de narration puisqu'il est le plus libre quoi par rapport à un livre ou un film où ça va être littéraire, enfin linéaire pardon. Mais du coup depuis quelques années il y a surtout des grandes stars qui font leur coming out. De jeux de rôle, que ce soit Vin Diesel ou que ce soit. Enfin, beaucoup de grandes stars, notamment américaines, se revendiquent rôlistes maintenant, donc du coup, ça a rendu le média rôlistique encore plus cool. Et dans la pop culture, je pense qu'on peut peut-être plus ajouter les actual play qui ont démocratisé encore plus, et donc du coup, grâce à Internet. Le fait que il y a des actual play où des gens sont costumés et ainsi de suite, donc il y a ce côté pop qui peut ressortir peut-être aussi par là et tout ce, ça fait un peu pot pourri ce que je dis mais c'est un peu ce mélange de tout ça qui fait que c'est lié à la littérature de l'imaginaire parce que le jeu de rôle vient aussi de Tolkien plus ou moins et à la science-fiction et tout ceci est connexe donc quelque part ça va être très prétentieux, mais je pense que le jeu de rôle est au centre de la pop culture et tout le reste gravite autour, que ce soit du comics au film.
Et on voit en plus, pour rebondir sur ce que tu dis là, on voit aussi des créateurs maintenant qui sont connus, respectés, qui sont en fait des rôlistes qui ont pratiqué le jeu de rôle, qui reconnaissent l'importance qu'a eu le jeu de rôle dans leur manière d'écrire, de créer. On pense, George Martin... a écrit, enfin en tout cas et l'éditeur d'une série de super-héros qui s'appelle, je crois, Wild Cards où en fait c'est lui et son groupe de joueurs qui racontent finalement le monde qu'ils ont créé par des parties de Super World dans les années 80 et bon, avec le Trône de Fer tout le monde connaît George Martin et voilà, et aussi on voit que les films du Seigneur des Anneaux au cinéma qui ont été d'énormes cartons, la série du Trône de Fer qui a aussi très très bien marché, on le sait, ça a été un phénomène télévisuel assez majeur ces dernières années, font que les univers de fantasy, les univers de science-fiction qui pendant longtemps étaient considérés comme quelque chose d'un petit peu à la marge, un peu, voilà, c'était de l'art un peu inférieur... Et maintenant, ça fait vraiment partie, n'importe qui, ou une grande majorité de gens ont vu Le Seigneur des Anneaux, savent ce que c'est qu'un elfe, un orque, un nain, ça paraît plus totalement étrange et un peu ésotérique. Donc ça, je pense que ça a beaucoup aidé aussi à faire prendre conscience que tout ça, ben, c'était déjà dans Donjons et Dragons, c'était déjà dans les jeux de rôle divers et variés, et que ça ne sort pas de nulle part en fait. Donc je pense que ça a joué un rôle aussi de remettre finalement le jeu de rôle a toujours été au centre de tout ça, mais il était un peu dans l'ombre, on cachait ce centre que je ne saurais voir, et on a remis le spotlight dessus ces dernières années.
Moi c'est sûr que je pense plutôt visuellement ou au cinéma etc, mais aussi je me dis niveau génération, c'est vrai que la pop culture est née à l'époque. Bon, à l'époque aussi du jeu de rôle, où le jeu de rôle est né. Et moi, comme ça, me vient tout de suite E.T. C'est-à-dire que c'est E.T., on est au début de la pop culture. Et qu'est-ce qu'ils font les gamins? Au départ, ils jouent au jeu de rôle. Et il y a du coup Stranger Things, hop, qui a repris tous ces codes-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font du jeu de rôle. C'est donc, c'est imprégné depuis le départ. Et effectivement, ça se répand dans la pop culture, du coup, avec la science-fiction, avec tout le reste, quoi.
Christophe, est-ce qu'il y a une réaction particulière ou pas? Non, pas spécial. En fait, pour revenir tout, sur la notion de chasse aux sorcières, c'était pas du tout pour être provocant hein, que je disais ça, absolument pas. Je sais bien qu'il ne sert à rien de remuer le couteau dans une plaie par ailleurs cicatrisée, effectivement. Je voulais juste aborder ce point-là parce que, en termes, on va dire, sociologie de la pop culture, dans le sens où, et là je pense notamment aux écrits de Julien, qui expliquait bien que, comme tout objet de la pop culture, les comics ont eu Vertam hein, qui a fait un écrit psychanalytique complètement torché maintenant qui ne sert plus à rien sur les comics, mais voilà, le jeu de rôle comme tout objet de la pop culture a eu a suscité de l'étonnement voire de la peur, de l'incompréhension, et notamment j'ai appris un certain nombre de choses dans l'écrit de Julien, parce que je connaissais Carpentras, mais je connaissais pas d'autres anecdotes, notamment aux États-Unis, où c'est allé très très loin dans l'emballement médiatique et l'incompréhension que ça a suscité. Et en fait, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, le jeu de rôle, peut-être, on peut dire effectivement que c'est un centre de gravité de la pop culture, c'est vrai, mais même encore aujourd'hui, on en parlait en off juste à l'extérieur avec Christophe, même encore aujourd'hui, finalement, il y a encore des préjugés à tordre peut-être. Hein. Tu avais interrogé Pain of Chaos, donc John Lang, qui t'expliquait qu'il avait connu des gens en centre de loisirs pour les gamins qui ayant voulu mettre des parties d'initiation au jeu de rôle, s'étaient confrontés à un refus, une levée de bouclier de la part de leur direction. Alors certes, ce sont des cas isolés, mais ce sont des cas qui existent encore. Et je trouve que dans la transformation de la pop culture et dans ce mouvement d'acceptation et d'influence, ça me paraissait important. C'est pour ça en fait que j'ai voulu rappeler tout ça. Et du coup, justement, cette influence néfaste, est-ce que, comme on n'a pas forcément le même âge et que je suis humblement un peu plus jeune, enfin un peu moins expérimenté, dirons-nous plus poliment, est-ce que vous avez connu cette influence tout azimut et cette panique médiatique, ou est-ce que c'est un truc que vous êtes passé complètement au travers ?
Moi, je l'ai pris de plein fouet, en fait. Ouais. Pour le cas français, c'était suite à l'émission de Mireille Dumas. Ouais. Le lendemain de l'émission, nous, on avait un club de jeux de rôle et on était les grands du club du jeu de rôle. Mais le matin, on avait ouvert une petite section pour les gamins, pour leur faire découvrir ce que c'était. Et du jour au lendemain, les parents ont retiré tous les gamins. Donc oui. Alors après, c'est vrai que ça a été très violent pour le milieu. Après, c'est pas que je voulais pas qu'on en parle, c'est parce que moi, je me dis que... Alors c'est vrai que peut-être tout le monde connaît pas toute cette partie... Et que je préfère peut-être aller plus de l'avant, c'était pas oui. du tout pour.
Ah non, mais voilà.
Mais c'est vrai que quand on parle de réaction violente, techniquement, en tant que joueur de jeu de rôle, ça a peut-être changé à un moment donné, mais aux États-Unis, on était excommuniés. Le pape nous avait excommuniés parce qu'on faisait des choses évidemment satanistes. Donc, oui. Et en fait, le jeu de rôle, pourquoi Bête Noire aussi ? Parce que, en fait, ça rejoint presque le côté. Enfin, les comédiens de théâtre, c'est-à-dire que on rentre dans son rôle et ça peut être un catalyseur pour des personnes fragiles. Comme tout autre média, ça peut amener à des dérives, mais en effet, c'est tout le temps anecdotique. Il n'y a pas de conversion de masse, saurait nos éditeurs de jeux de rôle le sauraient. Et oui, il y a eu des cas dans des sectes, et j'ai fait un dossier notamment dans le dernier JDR Mag sur l'éditeur White Wolf, et j'ai découvert notamment qu'il y avait un tueur en série aux États-Unis, qui s'était revendiqué comme vampire d'une classe de personnages du jeu de rôle Vampire la Mascarade, en fait. Et ça les a foutus vraiment dans le pétrin, pour être gentil, pendant longtemps. Et ils ont eu du mal à s'en remettre. Donc ouais, il y a ces sortes de chasse aux sorcières, mais sur des cas isolés, et pour peut-être plus pour le côté rapace de certains médias, puisqu'ils n'ont rien à dire des fois.
Pour rebondir là-dessus, on voit qu'aux États-Unis, ce qui est assez amusant, c'est que quand il y avait eu vraiment cet emballement médiatique au début des années 80, ça s'est aussi traduit par en gros, Donjons et Dragons n'a jamais eu autant de pubs finalement qu'à ce moment-là. Il y a une explosion des ventes parce que d'un seul coup, plein de gens entendent parler de ce jeu et font bah, finalement, moi ça me botte, j'ai envie d'y jouer. Mais par contre, le truc qu'on voit, c'est genre, je repense à ce qu'on a pu voir récemment sur. Des gens qui, voilà, via les réseaux sociaux, attaque des acteurs pour le personnage qu'ils jouent. On voit que certaines personnes ont du mal à faire la différence entre le fait de jouer un rôle dans une série et de la personne elle-même. Je sais que l'acteur qui faisait Geoffrey dans Game of Thrones, jeune acteur talentueux, se prenait des tombereaux d'insultes à cause de ce
rôle. Pourtant, il est mort, du coup, on ne devrait même pas en parler.
Voilà, mais... Et les gens parfois sont un peu surprenants comme ça. Et je pense que c'est ces mêmes gens finalement qui ont du mal à se rendre compte que non, c'est pas parce que tu joues un rogue, un roublard dans Donjons et Dragons que tu vas devenir un voleur. C'est pas la même, ça n'a rien à voir en fait. Voilà. Donc c'est plutôt, étrangement, c'est plutôt ces gens accusateurs qui ont du mal à séparer le réel de l'imaginaire, quoi. C'est cocasse.
Moi, je peux juste te dire que quand j'ai rencontré les gens du jeu de rôle, que je ne connaissais pas trop ce milieu-là, j'ai au contraire rencontré des gens d'une terrible érudition. Et voilà. Et en général, voilà, c'est que des gens qui connaissent beaucoup de choses et qui sont plutôt intelligents.
Bah, mine de rien, il faut encaisser ne serait-ce que des livres de règles entiers parfois, donc ça oblige à un certain exercice mental. Non, mais c'est vrai.
Ça pousse énormément la curiosité.
Oui, ah, complètement, bien sûr. Bien sûr. Et d'ailleurs, pour rebondir sur le côté complètement incroyable, alors là vraiment c'est un cas extrême, j'ai entendu parler tout récemment d'un truc qui s'appelait la maison Final Fantasy VII, qui est une secte qui s'est montée autour de Final Fantasy VII. C'est absolument incroyable, c'est fou. Donc du coup voilà, là c'était vraiment une vraie dérive, mais on parlait d'incarnation de personnages un peu trop poussés. Du coup ça nous ramène presque, même si c'est différent quand même, là il y a une mécanique voisine, ça nous amène à la thématique du GN, du grandeur nature, qui là le fait d'incarner un perso et de finalement de s'immerger parfois pendant une semaine entière dans la pop culture et dans le personnage, là c'est quand même clairement c'est très poussé, c'est encore plus poussé que derrière la table. Et est-ce que le grandeur nature vous a marqué, est-ce que vous avez pratiqué, ou c'est vraiment quelque chose qui vous est passé par-dessus?
Bah, c'est surtout pour dire que j'avais pas trop pratiqué, mais et surtout que je suis pas tout à fait d'accord, parce que je trouve justement que plus on essaye d'incarner les choses physiquement et concrètement, enfin en tout cas moi plus j'ai du mal à m'immerger. D'accord. J'ai plus de facilité avec une bonne description à une table qu'en portant un costume pas forcément bien fait et en jetant une boule en mousse sur...
D'accord.
Alors moi j'ai pratiqué, alors déjà c'est pareil, le milieu du grandeur nature a énormément évolué. Moi j'ai pratiqué à l'époque où nos épées c'était des tubes de PVC couverts de gaines de mousse, donc qui ressemblaient plus à des matraques qu'à des épées, mais bon, on se tapait dessus. Et puis ça a évolué, j'ai fait aussi un peu de murder party, puis plus récemment j'ai refait surtout des murder party, donc c'est, bah oui, il y en a aux imaginales, mais en gros c'est des soirées enquête, mais c'est un peu plus poussé. Et ce que j'aime bien en tout cas, je vais faire un peu de pub pour l'entreprise Chimerarium qui organise, parce que j'aime bien ce qu'ils font, on est en mode play to lose, c'est-à-dire jouer pour perdre, mot à mot, mais c'est-à-dire que on doit interpréter son personnage au mieux de ce que son rôle doit être, c'est-à-dire autant au caractère que de son histoire. Et s'il faut passer sur... comment dire? Si on doit mourir, même au début du jeu, si c'est le personnage, et ben on meurt et c'est pas grave et on prend un autre personnage. Parce que, en fait, en interprétant au mieux son personnage, ça fait vivre l'histoire dans son ensemble pour tous les autres personnages, pour le scénario. Et moi c'est ce que j'aime bien aussi. Et alors j'ai un petit fait pour les murders, parce qu'il y a plus d'interactions sociales, et puis j'ai peut-être pas plus trop le temps de faire des GN pendant une semaine, même si j'en ai jamais fait, mais voilà, en tout cas le grandeur nature est, je dirais, peut-être aussi diverse que le jeu de rôle.
Et le grandeur nature, on peut voir que d'ailleurs ses racines sont presque séparées de celles du jeu de rôle, dans le sens où déjà dès le 19e siècle, on voit des festivals qui font de la reconstitution, de tournois de chevalerie, des choses comme ça. Et c'est les premières graines du GN finalement.
C'est un plaisir de se costumer en premier, quoi.
Oui, toi qui aimes les trucs napoléoniens, forcément.
Tout ce qui va être fête médiévale, fête, voilà, c'est aussi du.
Ça
du
donne, ça donne plein d'univers dans lesquels on peut se déguiser, quoi. Du coup, ça fait un panel.
Donc ça fait partie de ces choses qui sont associées au jeu de rôle par nom, mais qui finalement sont des pratiques parallèles qui ont chacune évolué de son côté et qui se sont nourries mutuellement. On ne peut pas dire que le GN découle du jeu de rôle, par exemple. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment deux choses qui ont évolué en parallèle.
Peut-être, mais après, on en parlera peut-être sur d'autres questions. Je ne sais pas ce que tu as prévu, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une porosité d'autant plus visible de nos jours sur le GN, le jeu de rôle, le jeu de plateau aussi, qui s'est nourri du jeu de rôle et inversement maintenant. Et du coup de romans qui sont adaptés de jeux de plateau, et enfin voilà, on tourne un peu comme ça, et une porosité de genre, et du coup c'est vrai qu'on peut mélanger facilement.
On va faire un petit crochet, bon, on va continuer bien sûr, mais un petit détour par l'illustration. Du coup j'aimerais bien savoir, Julien Delval, comment quand on a un projet comme ça, je pense notamment au travail fait avec les éditions et la galerie Daniel Mégane et donc Olivier Souillet qui était en table ronde hier, comment on se laisse porter par le projet quand il y a un projet de dessin, comment on travaille, quelle est la méthode pour travailler sur une illu comme ça?
Alors là, tu parles de mes univers personnels, en fait,
qui sont
mes jeux de rôle à moi, que personne ne joue, quoi, à part moi, et puis après que je propose aux autres, et après chacun peut l'utiliser pour en faire ensuite un univers personnel, quoi. Ça, chacun fait sa quête dans l'illustration. Ouais. Moi, bien sûr, je m'inspire de mythes, de textes, de peintures existantes, et ensuite je crée mon image avec ça. Mais c'est vrai que du coup, on peut faire, après, on va faire, justement, avec Fabien, on a projet de faire le truc inverse, c'est-à-dire de partir de mes peintures pour créer un monde de jeux de rôle.
Oui, pour faire une petite parenthèse, donc on prévoit ça donc avec les éditions Entremonde. Et sur le coup, donc ça rejoint quand même un peu ta question, parce que je vais illustrer ces illustrations de mes textes et avec une partie du livre donc qui sera consacrée à un jeu de rôle. En fait, j'ai puisé dans ces peintures tout un univers qui lui est propre et qui met en bout à bout des images qui ont construit vraiment un univers et qu'on transforme du coup en jeu de rôle. Donc voilà. Après, moi, j'ai fait un peu d'illustre de jeu de rôle aussi. On est plus peut-être sur de la commande des fois déjà. L'illustration, c'est différent de la peinture parce qu'on a des contraintes différentes, des contraintes de format, des contraintes d'impression, des contraintes de technique qui ont évolué aussi pas mal ces dernières années. Et du coup, on répond à une demande. Je sais pas si on fait un truc un peu cliché, mais on vous demande de dessiner un guerrier. Et ben, faut que ce guerrier corresponde aussi au peuple. Donc on a des critères. Est-ce que c'est un guerrier en armure complète de chevalier? Est-ce que c'est un guerrier plutôt barbare? Enfin, ainsi de suite. Donc là, on a peut-être plus un cahier des charges, bon, suivant les éditeurs, pour répondre à la question sur l'illustration.
Oui. C'est ça. En général, il y a des briefs assez précis. Quand je faisais du jeu de rôle, les créateurs de jeux de rôle avaient toujours leur idée d'image. Ils voulaient toujours beaucoup de choses dans leur illustration. Donc en général, il y avait des scènes impossibles à réaliser parce qu'il fallait au-dessus, en dessous, sur les côtés, voir le décor, voir tous les personnages et les costumes en même temps. Et c'était assez drôle à faire.
Ouais, mais du coup, enfin, c'est ce que je me permets de rebondir. Ce qui est génial aussi avec ce qu'a fait Julien, je pense notamment par exemple à Agone, donc qui est un univers de Mathieu Gabory. Agone, c'est un univers très fort visuellement quand on le lit. Mais je trouve que c'est Julien, du coup, qui a donné cette identité visuelle à cet univers aussi.
Parce qu'ils m'ont laissé un plus libre à ce moment-là. Ouais.
Et c'est ça qui est fort, du coup, s'il y a vraiment cette histoire de partage et d'échange.
On retrouve complètement cette notion de porosité des frontières dont tu parlais. Hein. C'est l'illustration même qui arrive à inspirer, le reste, dans certains cas. Donc très bien, merci, vous avez parfaitement répondu. Hop là.
Pour rebondir là-dessus, parce que moi je ne suis pas illustrateur, mais j'ai édité mon propre jeu de rôle qui s'appelle Lauren Legacy, et c'est vrai que quand j'étais en train de l'écrire, je commandais à Pierre Le Pivin, qui est un ami illustrateur et dessinateur de bande dessinée, de faire une illustration pour chacun des peuples de l'univers, parce que je savais que derrière j'allais faire des parties de test dans des conventions et c'était bien d'avoir une image sur la feuille de perso pré-tirée, quoi. Et du coup, en fait, c'est vrai que ces premières illustrations, c'est aussi donner finalement l'impulsion que les autres illustrateurs qui vont passer derrière auront cette référence aussi sur laquelle ils pourront s'appuyer. Donc c'est toujours en tant qu'auteur, en tout cas, choisir finalement le premier illustrateur à qui on fait appel pour donner ses premières images. Moi, je sais que c'est quelque chose que je trouve vraiment, vraiment excitant. Et quand on voit vraiment la première interprétation visuelle de ce qu'on a écrit, c'est toujours quelque chose de super chouette.
C'est pour ça qu'on peut dire que le jeu de rôle est au cœur de la pop culture, c'est parce que le jeu de rôle est un endroit où on crée les univers, on crée les personnages, et ensuite, avec ça, on peut tout faire. On peut faire des jeux de société, on peut faire des films, on peut faire des romans, C'est pour ça que c'est important, le jeu de rôle, c'est la matière imaginaire, en fait.
Je vais me tourner plus particulièrement vers Christophe, comme ça. alors les autres sont tout à fait libres d'intervenir, bien sûr, mais j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'univers pop culture autour de Merde Vergorod, c'est-à-dire on discutait tout à l'heure du fait que, enfin en off du coup, du fait que tu étais assez généreux, parce que alors c'est pas que tu laisses les clés de ton univers, mais tu laisses le digicode, on va dire. Tu restes gardien, mais tu laisses le digicode quand même de l'entrée, parce que justement un peu comme un univers holistique. Et puis on l'a dit, tu travailles actuellement au jeu de rôle dessus. C'est un univers très ouvert. D'ailleurs, c'est des chroniques de Merde Vergorod, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que ce soit féminicide ou image de la fin du monde, voilà, c'est différents éléments du monde qui se passent dans différentes histoires, dans différentes temporalités. Mais du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste Merde Vergorod et comment tu l'as créé?
Merde Vergorod, donc c'est le nom de la ville où se situent toutes les histoires que j'avais racontées. Donc c'est une mégapole post-soviétique coincée entre la Russie et l'Ukraine qui concentre beaucoup de maux de ce monde, puisque c'est la plus grande décharge du monde, donc. Qui est un gouvernement extrêmement criminalisé, qui est corrompu, etc. Mais surtout, et ce qui m'a vraiment intéressé dans ce projet, c'est que j'ai en fait construit d'abord le décor, d'abord cette ville avec toute son histoire. Donc j'ai beaucoup, beaucoup de détails dans ma propre documentation qui viennent nourrir les histoires ou celles que d'autres auteurs seront invités à écrire. Et c'est en ce sens que c'est une approche rôliste, parce qu'effectivement, comme vous disiez, j'ai conçu l'univers d'abord. Et une fois que l'univers était parfaitement complet, ça m'a pris, je pense, 2 ou 3 ans avant d'écrire une ligne de fiction dedans. À ce moment-là, j'ai pu placer mes histoires à différentes époques, dans différents lieux de la ville, etc. etc. Et c'était vraiment un boulot passionnant à faire, parce que j'avais encore jamais écrit comme ça. Mes bouquins précédents partaient des personnages et le monde se construisait au fur et à mesure de leurs aventures, de leurs histoires. Alors que là, non, vraiment, le héros, c'est le décor. Ça, c'est très, très intéressant à faire, oui.
Et du coup, comment tu conçois un jeu de rôle Merde Vergorod? Comment tu le vois?
Alors, c'est pas exactement moi qui le conçois, c'est en cours de négociation avec un éditeur qui voudrait l'adapter. Ouais. Et comme toute adaptation, moi, j'aimerais justement pas trop mettre mon grain de sel pour voir ce que les autres vont en faire, comment ils vont s'en emparer. J'ai quand même deux ou trois idées un peu arrêtées sur quelques détails, et donc sur lesquels je vais être intransigeant, mais globalement, justement, j'ai hâte de voir ce qui va en être fait, c'est-à-dire que ce soit en jeu de rôle ou en bande dessinée ou en cinéma, enfin peu importe. Mais c'est vrai que le décor se prête beaucoup au jeu de rôle. Ouais.
Oui, complètement. Mm. Ouais, c'est vraiment un monde ouvert. Ouais.
C'est vraiment un bac à sable, même dans la construction du livre. Quoi. Mm.
Et c'est un monde ouvert et très rude, pour le coup, parce qu'on est dans la dystopie, de l'Uchronie. Enfin, c'est pas très reluisant.
Oui, il y a beaucoup de références à Dick, à Ballard, au roman noir, à Clive Barker, à Lovecraft. Enfin, c'est un gros, gros melting pot de toutes mes influences et de tout ce que j'ai aimé lire.
Mais il y a un côté hypnotisant. Il y a des trucs qui piquent, mais alors on veut pas lâcher. C'est terrible. Et bah, du coup, puisqu'on est là-dessus, messieurs, quels seraient vos... Enfin, quels sont d'ailleurs vos futurs projets? Si vous avez le droit d'en parler, bien sûr.
En jeu de rôle?
Oui.
Ou on va faire plus, simple, on va dire. En jeu de rôle, ce sera peut-être plus simple. Alors, moi, j'ai l'adaptation de la série Peaky Blinders qui sort le mois prochain, en jeu de rôle. Avec des petits jeux aussi connexes sur Stranger Things, mais qui ne sont pas du jeu de rôle, mais qui, forcément, traitent un peu de sujets dessus. Sur le feu, j'ai la deuxième édition d'Islandigar que je dois boucler en système de jeu. Et puis, donc, du coup, avec l'univers de Julien et donc les éditions Entre Mondes, sur le feu, c'est en train de mijoter. Ça prend un petit peu plus de temps que prévu. Mais on va sortir normalement, j'espère, l'année prochaine, le jeu de rôle de l'univers enfin, issu de l'univers des images de Julien. Et puis je crois que pour l'instant c'est tout. Enfin, il y a des scénarios à droite à gauche que je peux, qu'on peut me commander, mais en jeu de rôle, ouais, ça va être à peu près tout. Et les restes, j'ai pas le droit d'en parler.
Du coup, moi, je vais continuer à explorer Mervyet Gorod à travers des romans, etc. À mettre mon grain de sel dans le jeu de rôle qui va peut-être se faire. Et je continue aussi à travailler plus comme auteur de commandes, disons, pour des éditeurs de jeux de rôle, notamment Batro. Et un autre projet dont je n'ai pas le droit de parler non plus. C'est très intéressant pour vous. Sans aucun doute.
Moi, c'est pas vraiment du. Moi, je fais plus d'illustration de jeux de rôle, donc. Je fais mes projets personnels. Là, je fais une adaptation d'Othello illustré. Bon, il y a du costume, il y a du rôle. Hein. et puis, je continue toujours d'illustration pour le jeu de société Les Aventuriers du Rail. Mais dans la prochaine grosse boîte qui est pour l'année prochaine, il y a un petit peu de jeu de rôle qui va être ajouté aux Aventuriers du Rail. Voilà.
Et donc, bah, moi, de mon côté, en jeu de rôle en particulier, je continue de développer donc Lauren Legacy. Je travaille sur l'Atlas du monde, qui est donc un gros projet qui aurait dû sortir normalement là cette fin d'année, mais le vrai travail a pris un peu le pas sur sur l'écriture de JDR. Donc, il sortira plutôt au printemps. Et à part ça, je travaille aussi sur un supplément pour un jeu qui est cher à mon cœur, qui s'appelle Hearthstone, ouais, qui est un jeu de fantasy post-apocalyptique. Et l'éditeur américain en fait m'a confié l'écriture du supplément qui décrit la région qui correspond à la France en fait dans l'univers d'Hearthstone. Voilà, c'est presque maintenant l'écriture a commencé il y a presque 3 ans. Ça a eu beaucoup d'allers-retours avec l'éditeur américain. Ça a été assez long comme processus. Il devrait sortir normalement l'année prochaine, donc je croise les doigts, avec donc toute une région qui est inspirée entre autres par les Gaulois. Et ça a été l'occasion de moi-même apprendre énormément de choses sur ce peuple, ces peuples même plutôt, on devrait dire, qui étaient beaucoup plus étranges et inspirants que ce que je pensais. Donc j'ai vraiment, c'est un projet qui a été assez chouette.
D'où ta lecture de Monsieur Jaworski?
Bah, en fait, on me l'a recommandé en me disant « Ah, mais si tu travailles là-dessus, tu devrais lire. » J'avais lu Gagner la guerre, mais je n'avais pas lu du coup Les Rois du Monde. Donc du coup, voilà, maintenant j'ai acheté Rois du Monde et je l'ai fait dédicacer aux Imaginales. Donc, ça sera l'occasion de découvrir ça aussi.
Du coup, manière de voir quel aspect de votre personnalité et de tout ce qui s'est dit jusqu'à présent ressort, si quelqu'un, ça peut paraître basique, mais ça n'est pas tant que ça, si quelqu'un vient vous voir un jour, comme ça arrive peut-être d'ailleurs, et vous dit, alors je ne vais pas vous dire en une phrase quand même, c'est peut-être un peu chaud, mais en quelques phrases, c'est quoi le jeu de rôle? Explique-moi le jeu de rôle. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Que fais-tu?
Oui, pas mal.
Non, ouais, c'est dur à expliquer en fait. Non, je vais passer la main, j'ai juste cette bêtise à dire.
C'est la question piège, parce qu'en fait, on a une définition du jeu de rôle par table de jeu, déjà, puisque ça dépend comment on joue, avec qui, ainsi de suite. Le jeu de rôle, c'est un jeu de société dans lequel on interprète un rôle défini sur une fiche, et où, dans le mode classique, en tout cas, tout ce qui ne peut pas être décrit. Tout ce qui demande une intensité scénaristique ou tout ce qui est une partie aléatoire se définit par des lancers de dés. Voilà. Et c'est le mélange de tous les joueurs autour de la table, y compris celui qu'on appelle le meneur de jeu, qui va définir la narration d'une histoire commune. Bon, je le vois assez comme ça en tout cas. Du coup, c'est bien si...
J'ai pas grand chose à rajouter à ça, mais oui, je dirais une histoire qu'on crée en commun en s'appuyant sur des règles plus ou moins détaillées ou avec des dés ou pas, mais en tout cas qui résulte d'une partie d'un jeu dans lequel il n'y a ni gagnant ni perdant. Voilà, une partie réussie de jeu de rôle, c'est une partie où à la fin tout le monde s'est amusé. Et c'est ça aussi qui fait du jeu de rôle un jeu un peu à part et qui d'ailleurs est l'une des raisons pour lesquelles ils ont eu du mal au départ à convaincre des éditeurs de jeux traditionnels du potentiel. Gary Gygax a été allé voir Avalon Hill, des éditeurs comme ça, et qui disait un jeu où il n'y a pas de gagnant, ça ne marchera jamais. Et donc, bah, voilà, l'histoire leur a donné tort, mais c'est aussi ça qui rend le jeu de rôle un peu unique. C'est autour de la table, tout le monde gagne parce qu'on a passé un bon moment et qu'on a raconté une histoire ensemble.
Bah justement, quel est votre meilleur souvenir de jeu de rôle ou rencontre liée au jeu de rôle ?
En maîtrisant Occulte, j'étais tellement, tellement affreux que j'ai réussi à faire vomir un joueur avec mes descriptions, donc j'étais plutôt fier de moi cette fois-là.
J'ai joué, j'avoue.
Ah ouais, y a du niveau là. alors je crois que mes plus beaux souvenirs sont plus des souvenirs liés à mon adolescence par rapport au jeu de rôle, mais parce que je pense qu'on a eu une intensité de jeu qui est différente et on jouait en non-stop pendant 48 heures des fois. Et du coup, des fois on est fatigué, des fois il y a des drames humains de joueurs de non mais t'as raté ton jet de dés, tu peux pas faire ça, c'est parce qu'on est humain. Et en même temps il y a des souvenirs fabuleux parce que notre cerveau à force de jouer pendant des heures, et ben on rentre complètement dans cet univers, on interprète complètement notre personnage et ça crée des moments uniques avec des personnes qui sont là à ce moment là et bien qu'il y ait ce qu'on appelle des campagnes de jeux de rôle cultes, on peut jouer ces scénarios avec différentes personnes ou même avec les mêmes personnes et ce sera à chaque fois différent. Et je pense que c'est aussi, enfin, moi c'est ce qui m'épate toujours dans le jeu de rôle, quoi.
Moi c'était des souvenirs de personnes, comme j'étais pas rôliste, c'était plus l'émulation quand on était sur Agon, d'être avec tous ces auteurs et qu'il y avait plein d'idées, qu'il fallait crayonner, qu'il fallait voilà, construire le truc, c'est surtout ça mes meilleurs souvenirs.
Moi, je dirais qu'il y a deux aspects différents. D'un côté, en tant que joueur rôliste, pour moi, c'est vraiment finalement des amitiés qui sont nées et qui durent pour certaines depuis le lycée jusqu'à encore aujourd'hui et qui ont vraiment compté dans ma vie à plein de niveaux. Et puis, sur un autre registre, en fait, pendant 11 ans, j'ai présenté sur une petite chaîne qui s'appelait No Life, que certains ont peut-être connu, une émission qui parlait de jeux de rôle qui s'appelait 1D6. Et pas plus tard que ce matin, aux Imaginales, il y a une personne qui est venue pour faire dédicacer le livre et qui m'a dit, voilà, c'est ton émission qui m'a donné envie de faire du jeu de rôle. Et donc, moi, ça, c'est quelque chose qui... c'est ma petite fierté, quoi.
No Life me manque beaucoup. toujours dans nos cœurs. Remember. Justement, je vais continuer un peu avec toi, mais bien évidemment, tous les autres se sentent libres de réagir, comme toujours. Comment est-ce que ton travail dans le jeu vidéo a pu influencer ta pratique rôlistique ou inversement ? Est-ce qu'il y a eu influence ?
Alors, clairement, parce que moi, dans le jeu vidéo, du coup, je travaille à la direction créative. Donc, tout ce qui va être création d'univers, c'est des choses pour lesquelles la méthodologie du jeu de rôle me sert vraiment encore tout le temps. Parce que finalement, les enjeux sont les mêmes. C'est créer un univers dans lequel des joueurs vont pouvoir vivre des histoires, s'amuser et avec des choses, des règles qui sont claires de pourquoi on peut faire ça et pas ça, et ainsi de suite. Et toujours avec cet enjeu qui est de dire il faut que ce soit l'histoire du joueur à la fin. Un jeu vidéo où le joueur a l'impression qu'on lui a imposé l'histoire de quelqu'un d'autre et qu'au final c'était pas vraiment son histoire, pour moi c'est pas un jeu qui réussit vraiment son objectif. C'est plus dur que ça en a l'air, parce que parfois voilà, l'histoire peut prendre le dessus sur ce qu'on appelle l'agency, donc c'est le fait que le joueur soit un élément actif de la progression. Mais en tout cas voilà, sur tout ce qui est construction d'univers, world building comme on dit, les mêmes méthodes en fait qui me servent à écrire du jeu de rôle ou du jeu vidéo finalement sont employées. Et puis d'une manière plus pragmatique, quand j'ai fait Lorraine Legacy en grande partie pour y mettre toutes les idées que j'aurais bien voulu faire dans des jeux vidéo et que je pouvais pas pour plein de raisons, parce que voilà, jeu vidéo c'est très collectif, il y a énormément de décideurs dans tous les échelons. Donc voilà, toutes ces idées, je les ai accumulées, je les ai notées, et puis à un moment donné, quand j'ai eu envie de faire un jeu de rôle, je me suis dit, ah ben en fait, l'univers, je l'ai déjà, il est là. Toutes ces idées, elles vont bien ensemble, en fait, ça marche bien, et du coup, voilà, c'est devenu Lorraine Legacy.
Est-ce que ce témoignage suscite des réactions ? Non. pas spécialement. C'était fascinant. c'était hypnotisant. Il va nous rester un petit quart d'heure, grosso modo. Alors, je vous propose deux choses. Alors, il va peut-être un petit aspect échange avec le public qui pourrait être intéressant. Mais avant cela, chose que j'aime bien faire en fin de table ronde. Vu que je vous ai pas mal embêté avec mes questions, j'aime bien demander aux intervenants s'il y a un sujet qu'ils auraient, enfin un aspect de la question qu'ils auraient aimé aborder, qui n'a pas été abordé, et qui vous tient particulièrement à cœur, parce que je ne veux pas que vous repartiez frustré, ce serait pas bien. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez aborder en particulier? Non.
Pas spécialement. Bon, on a fait un tour.
Ça veut dire que je m'en suis bien sorti.
À rajouter, c'est vrai que sur l'aspect, on va dire, historique du jeu de rôle, et comme le jeu vidéo d'ailleurs, voilà, le jeu de rôle sous sa forme actuelle avec Donjons et Dragons, ça fait 50 ans en fait qu'il existe. Donc c'est pas quelque chose de nouveau qui vient de sortir. Il est là depuis un demi-siècle et je pense qu'il est là pour durer. En tout cas, c'est pas un micro-phénomène qui a disparu aussi sec, en fait. Non, le jeu de rôle est bien là, il est présent, il est vivace. Il a eu ses hauts et ses bas, mais en ce moment, voilà, il a plutôt le vent en poupe, j'ai l'impression.
Surtout, on est revenu dans du haut. Je pense que c'est pas pour rien qu'il y a autant d'adaptations. J'ai encore vu ce matin sur les réseaux sociaux que Cowboy Bebop venait d'avoir signé une adaptation jeu de rôle. Pour les gens qui sont du coin, je rappelle quand même qu'il y a l'association Le Cygne Jaune qui, d'ailleurs, chapeaute cette table ronde.
Tout à fait. J'ai oublié de le mentionner. Je leur présente toutes mes excuses.
Non,
tu fais bien.
Je pense que. Mais voilà, si vous cherchez dans le coin du jeu de rôle, peut-être adressez-vous à eux. Ils pourront peut-être vous aiguiller. Je ne veux pas faire de la propagande pour le jeu de rôle, mais ça fait quelques années que je fais du lobbying aux Imaginales pour qu'on ait vraiment notre place en tant que rôliste dans ces univers imaginaires. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Tout va bien. Eh bien, donc du coup, je vous propose d'échanger un peu avec le public des réactions, des commentaires, des témoignages de rôlistes, des témoignages de souffrance, de joie.
Vous pouvez éviter de vomir.
Oui, non, ne vomissez. Non, je. Chapeau, vraiment. C'est chat. Donc. Parce que, il ne faut pas être timide, hein, il n'y a qu'un jugement.
Il faut parler bien fort.
Essayez de parler bien fort.
Moi, je pense que déjà, ça dépend de comment on joue autour de la table. Il y a des gens qui vont faire passer le statut de meneur de jeu de personne en personne. C'est un type de jeu de rôle. Dans le jeu de rôle plus classique avec un meneur, moi, ce que j'aime bien, c'est avoir un scénario. Et du coup, avoir la réaction des joueurs qui changent le scénario, parce que c'est un peu cette liberté-là qu'offre le jeu de rôle. Donc, c'est un peu un mélange des deux propositions dans la question. C'est on pose quelque chose sur la table, on pose un univers. Et une direction quand même, parce que souvent, si on fait, comme si on prend Tolkien comme exemple, c'est bon, on part en quête. On va faire un truc de cet anneau-là, il faut aller le détruire. Donc globalement, vous avez tout un trajet à faire. Moi, je sais qu'il y a une épreuve importante dans la Moria. Et là, les joueurs vont dire, on sait que c'est dangereux la Moria, on va éviter. Mais il y a le grand méchant, lui, qui a prévu sa tempête de neige. Donc du coup, ça redirige un peu, si on veut vraiment forcer les joueurs. Parce que c'est un événement qui, pas pour les forcer, mais parce qu'on se dit que cet événement pourrait être dramatique, créer des scènes, des sensations qui seraient fortes. Et après, ils vont peut-être rentrer dans la Moria et se dire, on va faire ce couloir, mais pas celui-ci, et ainsi de suite. Et l'histoire sera totalement différente de ce qu'on avait prévu dans la Moria. Voilà, je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais...
Moi, ce que m'a appris le fait de maîtriser le jeu, parce que j'étais beaucoup plus maître de jeu que joueur, ce que ça m'a appris dans la façon de raconter une histoire... C'est que le personnage et donc le joueur, comme tu disais, est totalement au centre du truc. C'est-à-dire que j'improvisais vraiment beaucoup. Je connaissais mes décors et je savais ce que faisaient les méchants ou les autres personnages, disons, en l'absence des joueurs. Mais c'était vraiment les joueurs qui faisaient avancer, progresser l'histoire, y compris dans les directions que j'avais pas eu tout prévu. Donc il fallait vraiment que je leur coure après pour que ça continue à fonctionner. Et je crois que dans la littérature, c'est pareil. C'est-à-dire que si le personnage n'est pas le moteur, n'est pas au cœur de l'action, et que c'est juste une histoire qui se déroule, qui pourrait se dérouler avec n'importe qui, ça ne fonctionne pas, et que ce soit le joueur ou le lecteur, il n'y a aucun intérêt pour lui.
Et je pense qu'en tant que meneur de jeu, j'ai surtout été meneur de jeu également, et en tant que meneur de jeu, on gagne de l'XP, de l'expérience finalement, quand on apprend aussi un peu à lâcher prise par rapport à l'histoire qu'on avait prévue, et à aller avec les joueurs. Moi, le plus gros compliment qu'on puisse me faire, le meilleur compliment qu'on puisse me faire, c'est quand mes joueurs me disent « Ah, t'avais prévu un truc de fou dans la partie, oh là là, t'avais vraiment préparé ça ?» Et moi, je suis en train de dire « En fait, j'ai totalement improvisé par rapport à ce sur quoi vous vouliez aller. » Et puis, tant mieux si vous pensez que c'était prévu d'avance, mais en fait, pas du tout. Voilà.
ce qui me fait rebondir, en fait, du coup, sur le principe de... Dans les années 90, il y a eu un peu plus d'adaptation. Mais pour répondre encore différemment à cette question, c'est il y a pour moi en tout cas des mauvaises adaptations quand on a un univers. Par exemple, je pense à Stormbringer. Les premières adaptations pour moi n'étaient pas bonnes parce qu'en fait, le héros, il fait tout le boulot. Et on joue des gens qui sont en fait dans le décor. Alors que les joueurs doivent être justement moteurs, doivent être les héros de l'histoire. Et maintenant, il y a de bonnes adaptations. Je pense du coup, par exemple, au jeu Star Wars de chez FFG, où les joueurs sont les vrais héros. Et bien sûr qu'il y a les films, bien sûr qu'il y a les trucs canons, mais on s'en fiche à moitié. C'est les joueurs qui sont les vrais héros de l'histoire.
Bon, Julien, je sais bien que c'est moins le domaine, mais si jamais il y a une réaction qui... Est-ce qu'il y a merci du coup. Est-ce qu'il y a une autre question, remarque, commentaire? Ah.
Oui. Ça va. J'étais pas mal là.
Ouais.
Je pense que c'est plutôt historique en fait. Mais je pense que Julien sera plus technique sur la question historique du jeu de rôle. Peut-être me contenter sur la deuxième partie. Oui, tout est adaptable tant qu'on respecte les critères que je viens de dire. C'est-à-dire qu'il faut que les joueurs soient les héros de cet univers. Et des fois, il y a juste le mot adaptation qu'il faut bien prendre en compte. C'est-à-dire qu'on ne va pas coller un univers ou une histoire d'un film ou autre pour en faire un jeu de rôle. Non, il faut travailler là-dessus pour se dire comment on peut créer des histoires dans cet univers, comment les joueurs sont les héros de l'histoire. Pour la partie plus histoire médiévale, je te laisse.
En fait, on se rend compte que les premières expérimentations qui allaient conduire au jeu de rôle, c'était pas du tout sur du médiéval, par exemple, c'était en fait sur de l'époque napoléonienne, c'est ce qui s'appelait le Bronstein, où en fait, voilà, c'était des joueurs de wargame qui, entre deux parties de wargame napoléonien, se sont dit, pour changer un peu, là, on va jouer ce qui se passe dans ce village avant la bataille, en fait. Les espions qui cherchent des informations, voilà. Et c'est ça, en fait, qui met un peu le feu aux poudres, où après, ils vont commencer à itérer là-dessus et emmener ça dans des directions des univers. Sur les déclinaisons du Bronstein, il y a eu le western avant le médiéval, par exemple.
Le médiéval des Américains, un petit peu, quand même.
Voilà. Mais par contre, effectivement, on voit qu'à partir du moment où ça devient un produit qu'il faut vendre, ça apparaît dans un moment où il y a des figurines médiévales qui sont faciles, qui sont disponibles. Il y a Le Seigneur des Anneaux qui a été réédité à ce moment-là dans les années 70. Donc c'est un peu dans l'esprit, dans l'imaginaire collectif à ce moment-là d'un certain public. Et donc voilà, les choses viennent ensemble. Ces rivières se rencontrent, donnent Donjons et Dragons. Mais très très vite, derrière, on voit du super-héros, on voit de la science-fiction, on voit... souvent on dit les trois grands genres aux États-Unis, c'est fantasy, science-fiction, super-héros. À peine quelques années plus tard, on voit RuneQuest, qui est beaucoup plus dans un monde antique, ensuite l'appel de Cthulhu. Donc finalement, la fantasy médiévale est très présente parce qu'elle est, je pense... facile à se représenter, on sait ce que c'est qu'un chevalier, on sait ce que c'est qu'un dragon.
Et puis appuyé avec beaucoup de textes aussi, les contes, il y a beaucoup de textes anciens.
Et du coup, voilà, elle reste très populaire, effectivement, Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, tout ça, ça reste, on va dire, une catégorie de fantasy, c'est le Jupiter de la fantasy un petit peu, c'est la masse principale de la fantasy. Mais on voit aussi que toutes d'autres périodes historiques, d'autres genres, le jeu de rôle, c'est quand même très très... foisonnant, je pense qu'on peut trouver un jeu de rôle sur tout, et ça c'est quand même plutôt pas mal.
Et petit, si vous lisez un peu d'anglais, allez par exemple sur Drive-Thru RPG. C'est un site de vente de PDF. Souvent, il y a des trucs pas chers pour tester dans des univers et ainsi de suite. Si vous cherchez des trucs un peu plus encyclopédiques sur le jeu de rôle, en dehors du côté historique du livre de Julien, il y a le site du Grog. Eux, ils référencent beaucoup de jeux. Donc, voilà.
Il nous reste 4-5 minutes. On s'en fait une petite dernière s'il y en a. Exprimez-vous.
Bon, je crois que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense qu'il y a... Est-ce qu'il faut définir l'œuf ou la poule? Je crois que c'est tellement pour eux que... Voilà, on va dire que officiellement le premier jeu de rôle, c'est Donjon avec Gary, mais en fait, il y en a probablement eu des petits trucs avant. C'est le plus connu, mais le premier, le dernier, je sais pas. Je pense que c'est transversal un peu.
Je pense que, en particulier dans le cadre Donjon et Dragon, le fait qu'il y ait eu des œuvres, on sait que Gary Gygax, par exemple, n'aimait pas trop le Seigneur des Anneaux en réalité, lui, il préférait Conan. Mais bon, voilà, il voyait bien que c'était un livre qui avait du succès et qu'il serait bête de ne pas s'en inspirer un petit peu. C'était un businessman assez filou, assez rusé, Gary Gygax. Mais en tout cas, je pense que ça a aidé le fait qu'il y ait effectivement ces romans. Très peu de films encore de fantasy à ce moment-là, à part quelques films de Chevalier à table ronde ou des choses comme ça. Mais le fait qu'en tout cas il y ait cet imaginaire un peu partagé a sans doute aidé à ce que des joueurs puissent s'y projeter plus facilement dans un premier temps que si ça avait été un monde, enfin un truc totalement original. Effectivement, on voit le premier jeu que TSR sort après Donjons et Dragons, c'est Empire of the Petal Throne, le jeu du professeur Baker, qui est un univers de science fantasy étrange, inspiré de culture indienne. Voilà, c'est un univers incroyable. Ça n'a pas été un très grand succès d'édition parce que c'était, pour le coup, c'était compliqué de se projeter dedans à ce moment-là. Donc je pense qu'effectivement, il y a quand même eu l'utilisation d'une pop culture partagée, vraiment dans le sens culture populaire, a aidé en tout cas à créer une porte d'entrée pour des joueurs qui venaient, qui découvraient le jeu de rôle et qui avaient du coup des points de référence familiers qui rendaient ça plus accessible.
Eh bien, sur ces bonnes paroles d'accessibilité, je vous propose de libérer tout le monde, public et intervenant, qui doivent chacun commencer à avoir faim, sans doute. Donc voilà, on va les laisser aller manger. Je vous remercie d'avoir suivi cette table et je remercie chaque intervenant d'y avoir participé, c'était très riche. Et les Imaginales, ce n'est pas terminé, hein, pas encore, pas avant demain soir. Je retrouverai d'ailleurs Fabien en table ronde à cette occasion. Et puis, ben, je pense que vous pourrez les croiser un peu partout sur le festival et continuer avec eux cette discussion, soit en dédicace, soit au détour d'un Magic. Voilà, soit au Bounia aussi également. C'est possible. En tous les cas, merci à vous et bonne fin de festival.